Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 15 avril 2024. Réunie à Paris, la communauté internationale exhorte à ne pas oublier le Soudan. Au Nigeria, l'État récupère 26 millions de dollars suite à une enquête contre un ministère. Ici aux États-Unis, Donald Trump dénonce une attaque contre l'Amérique au premier jour de son procès au pénal. Les États-Unis disent ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran tout en renouvelant leur soutien inébranlable à Israël. Ne manquez pas notre journal, notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. La crise alimentaire au Soudan pourrait être la plus grande jamais connue, a averti le Programme alimentaire mondial lors d'une conférence sur ce pays. Aujourd'hui à Paris, la rencontre vise à combler le déficit de financement pour faire face aux effets du conflit soudanais. Davantage avec Nani Talani.
La situation au Soudan est presque catastrophique. Il y a de la faim, énormément de faim dans le pays. Et même si nous déclarons l'état de famine, ce sera trop tard, a prévenu la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, en marge de la conférence. Le Soudan pourrait bien être la plus grande crise alimentaire jamais connue, a-t-elle ajouté. Dans les prochains mois, près de 5 millions de Soudanais pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique, selon l'ONU, alors que la réponse humanitaire prévue pour le Soudan n'est financée qu'à hauteur de 5%, d'après Paris. Plus de 840 millions d'euros d'aide ont déjà été annoncés en ouverture de la conférence humanitaire internationale à Paris avec l'objectif de coordonner les initiatives de médiation pour mettre fin à la guerre qui, en un an, a fait des milliers de morts, plus de 8,5 millions de déplacés, selon l'ONU, et détruit des infrastructures du pays. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère soudanais des Affaires étrangères a exprimé son étonnement profond et son indignation quant au fait que cette conférence sur les affaires du Soudan puisse avoir lieu sans coordination ou consultation avec son gouvernement.
Et après la première journée de travail à Paris, la conférence a promis de fournir une aide de plus de 2 milliards d'euros pour aider la population civile, a annoncé le président français Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti s'est dit, lui, favorable à des couloirs humanitaires sécurisés au Soudan. Le chef de la diplomatie djiboutienne a par ailleurs estimé que sur le front diplomatique, la plateforme IGAD, Union européenne, Union africaine du moins, demeurait le cadre approprié pour abriter un dialogue inclusif inter-soudanais. Mais il a salué la reprise du processus de Jeddah sous le patronage de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Sur le terrain au Soudan, même, la guerre continue. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à El Fasher, au Darfour, dans des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires, un an jour pour jour après le début de la guerre sanglante qui ravage donc le Soudan. L'État nigérien a récupéré plus de 26 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur des malversations au sein du ministère de la lutte contre la pauvreté. L'annonce a été faite par l'agence anticorruption. Le point avec Yakuba Oudreou.
L'agence anticorruption, la commission des crimes économiques et financiers, a expliqué avoir récupéré 32,7 milliards de naira, soit 26,4 millions de dollars et 445 000 dollars pour le moment. L'enquête est toujours en cours. L'agence anticorruption affirme avoir découvert d'autres transactions frauduleuses impliquant les fonds COVID-19, le prêt de la Banque mondiale, le butin récupéré d'Abacha, dont les montants avaient été remis au ministère pour lutter contre la pauvreté. Les enquêtes ont également permis d'établir un lien entre plusieurs fonctionnaires suspendus du ministère et les malversations financières présumées, ajoute le communiqué. Depuis janvier, le président Bola Ahmed Tinubu a lancé un grand ménage au sein du ministère de la lutte contre la pauvreté et des affaires humanitaires. Il a aussi ordonné une enquête pour malversations financières à l'encontre de la ministre Beta Edou et plusieurs hauts cadres. Le chef de l'État a suspendu en janvier Mme Edou suite à des allégations selon lesquelles elle aurait détourné des fonds publics vers un compte bancaire privé.
En RDC, la famille de Chérubin Okende, l'opposant mort en juillet dernier, conteste la thèse du suicide avancée par le parquet. Elle a déposé donc une nouvelle plainte contre inconnu ce lundi à Kinshasa, au parquet général de Kinshasa-Gombe. Député d'opposition et ancien ministre des Transports, Chérubin Okende avait été retrouvé mort le 13 juillet 2023, le corps ensanglanté assis au volant de sa voiture sur un boulevard de la capitale congolaise. Une journaliste du moins, burundaise, est détenue depuis dimanche par les services de renseignement de Bujumbura, a indiqué aujourd'hui sa famille, suscitant des inquiétudes pour la liberté de la presse. Sandra Mouza, âgée de 42 ans, est journaliste pour la Nova Burundi, un média en ligne réputé plutôt proche du pouvoir. Le motif de son arrestation n'a pas été communiqué à la famille.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La tension est toujours vive au Moyen-Orient après l'attaque iranienne sans précédent contre Israël ce week-end. L'armée israélienne a lancé lundi des frappes meurtrières sur la bande de Gaza alors que le monde craint un embrasement régional. Le point avec Abdourahman Dia.
Alors qu'Israël, sous très forte pression internationale, fait attendre sa décision sur une éventuelle riposte, les appels à la désescalade se multiplient afin d'éviter un embrasement dans une région au bord du précipice, selon l'ONU. Les États-Unis ont affirmé ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran, tout en renouvelant leur soutien inébranlable à Israël. Israël, qui a annoncé d'ailleurs avoir déjoué en coalition avec ses alliés cette attaque massive menée pendant la nuit de samedi à dimanche avec 350 drones et missiles dont la quasi-totalité a été interceptée. Cette première attaque directe de l'Iran contre le territoire israélien a été lancée en riposte à une frappe contre le consulat iranien à Damas le 1er avril imputée à Israël qui a tué 7 membres des gardiens de la révolution. L'armée israélienne a affirmé que l'attaque iranienne ne la ferait pas dévier de ses objectifs face au Hamas, allié de l'Iran, cible de son offensive dans la bande de Gaza. D'ailleurs, ce lundi, avant l'aube, des dizaines de raids israéliens ont frappé le secteur de Khan Younes, dans le sud de l'étroite bande de terre. 18 corps y ont été récupérés sous les décombres et transférés dans un hôpital, a affirmé la défense civile.
Et l'armée israélienne a annoncé ce lundi que 4 soldats avaient été blessés en territoire libanais après que le Hezbollah a affirmé avoir activé des engins explosifs au passage de soldats israéliens ayant traversé la frontière. C'est la première fois que le Hezbollah pro-iranien, qui échange quotidiennement des tirs avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus de 6 mois, annonce une telle opération. Le président américain Joe Biden reçoit le premier ministre irakien Mohamed Shah al-Soudani à la Maison-Blanche ce lundi. Le déplacement de M. Soudani à Washington, le premier depuis son entrée en fonction en octobre 2022, devait à l'origine porter sur la présence des troupes américaines en Irak, mais la réunion sera désormais dominée par la situation tendue dans la région après que l'Iran, voisin de l'Irak, a lancé samedi une attaque massive de missiles et de drones contre l'État hébreu. Ici aux États-Unis, Donald Trump est devenu ce lundi le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale. Il a qualifié d'attaque contre l'Amérique son procès à New York, où il est jugé pour une affaire de paiement à une star de film adulte, Mouamadou Moufa.
Juste avant que l'audience ne s'ouvre au tribunal de Manhattan, le candidat républicain a dénoncé une fois de plus une persécution politique ourdie, selon lui, par l'administration du président démocrate Joe Biden. Il est ensuite entré dans la salle du tribunal, derrière un de ses avocats où il s'est assis, engageant un conciliabule avec son conseil, sans prêter attention au procureur Alvin Bragg. Le juge Yuan Mershan a ensuite ouvert la séance et a commencé à examiner des recours présentés par la défense, rejetant notamment une demande de se récuser. Première étape du procès ce lundi, la sélection des 12 jurés qui auront la charge de déclarer à l'unanimité Donald Trump coupable ou non coupable, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours. Une centaine de résidents de Manhattan sont réunis dans la salle d'audience où ils devront répondre à un long questionnaire sur leurs affiliations politiques et leur sympathie ou non pour Donald Trump. L'ex-président est jugé pour une affaire de paiement destinée à acheter le silence de l'ancienne star du X, Stormy Daniels, à quelques jours de l'élection de 2016 qui avait fait de lui le 45e président des États-Unis. Il a toujours nié ces accusations.
Le FBI et la police fédérale américaine ont ouvert une enquête criminelle sur l'effondrement du pont du 26 mars dans le Maryland. L'enquête portera au moins en partie sur le cargo d'Ali et sur la question de savoir si son équipage a quitté le port de Baltimore en sachant que le navire présentait de graves problèmes au niveau de ses systèmes. Et puis en Australie, une nouvelle attaque à l'arme blanche a fait 4 blessés ce lundi lors d'un service religieux à Sydney, au surlendemain de celle qui a fait 6 morts samedi dans un centre commercial.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En Côte d'Ivoire, les fortes chaleurs depuis le début de l'année provoquent des stress hydriques aux plantes et perturbent gravement la production agricole qui représente un quart du PIB et plus de la moitié des emplois. Les cacaoyers, particulièrement sensibles à la chaleur, souffrent et les récoltes s'annoncent bien en deçà des attentes. Selon le gouvernement ivoirien, le changement climatique pourrait entraîner des pertes annuelles du PIB pouvant aller jusqu'à 4,5% entre 2020 et 2030. Le Niger annonce avoir obtenu 400 millions de dollars de la Chine au titre d'une avance sur ses ventes prochaines de son pétrole brut dont la commercialisation doit débuter en mai. Ces fonds seront remboursés sur 12 mois avec 7% d'intérêt. Ils seront utilisés prioritairement pour la défense et la sécurité, le développement agricole et l'amélioration de l'offre médicale au Niger. Pour terminer, le Nigeria a récupéré plus de 26 millions de dollars dans le cadre d'une enquête qui est toujours en cours sur des malversations au sein du ministère de la lutte contre la pauvreté, annonce la Commission des crimes économiques et financiers. Cette agence anticorruption affirme avoir découvert d'autres transactions frauduleuses impliquant les fonds COVID-19, un prêt de la Banque mondiale et le butin récupéré de l'ex-président Feu Sani Abacha, dont les montants avaient été remis au ministère pour lutter contre la pauvreté.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les derniers matchs de poule de la CAN de futsal débutent ce soir au Maroc.
Oui, 2 rencontres à la même heure, 20h temps universel dans la poule A, Angola, Ghana et Zambie-Maroc, sur place à Rabat au Maroc. Notre correspondant Amine Birouk.
Les Marocains ont alterné le très bon et le très moyen lors de ces deux sorties. Beaucoup de virtuosité, des buts exceptionnels, mais également quelques bugs, quelques moments de déconnexion, notamment sur le plan défensif qu'il va falloir ajuster face à la sélection zambienne. Il y a également dans le groupe A, a priori l'Angola qui a dominé la Zambie, qui reste sur une victoire et une défaite. Elle ne devrait faire qu'une bouchée de la sélection ghanéenne, qui a été un peu la grosse déception de ce groupe A.
Merci Amine Birouk. Pour rappel, la compétition va se dérouler jusqu'au 21 avril à Rabat. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes et l'équipe classée troisième vont représenter l'Afrique au Mondial de futsal, prévu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Athlétisme, Cissé Lema remporte le marathon de Boston avec brio.
L'Éthiopien a attaqué tôt et s'est accroché pour remporter le marathon de Boston, s'imposant en 2h06 minutes 17 secondes. Cissé Lema, qui menait de plus de 2 minutes à mi-parcours, a terminé avec 41 secondes d'avance sur son compatriote Mohamed Issa. Ce dernier a surgi en fin de course pour s'emparer de la deuxième place devant le Kenya Evans Chebe, qui a été privé d'un troisième titre consécutif à Boston. Chez les dames, la Kenyan Hélène Obiri s'est détachée dans le dernier kilomètre pour remporter un deuxième titre consécutif en 2h22 minutes 37 secondes devant sa compatriote Sharon Lokedi. Cette dernière a terminé à 8 secondes et Edna Kiplaga complète le podium kenyan.
Ici en NBA, fin hier des matchs de la saison régulière.
Oklahoma City a réussi à terminer la saison régulière en tête de la conférence Ouest grâce à sa victoire face à Dallas 135-86. Le Thunder finit avec le même bilan que le champion en titre Denver, 57 victoires, 25 défaites, qu'il devance grâce à ses 3 succès à 4 confrontations directes. Denver, grâce à son succès sur le parquet de Memphis 126-111, monte d'un cran à la deuxième place devant Minnesota, battu par Phoenix 125-106, son futur adversaire au premier tour des playoffs qui débuteront le 20 avril. Les Los Angeles Lakers ont, eux, disposé de la Nouvelle-Orléans 124-108, qu'ils retrouveront dès demain en Louisiane en barrage avec en jeu une place en playoffs. Golden State, qui a été défait du Jazz de Utah 123-116, termine 10e et jouera demain sur le parquet voisin de Sacramento 9e. Le vainqueur de ce match sec va affronter le perdant de la confrontation entre les Pelicans et les Lakers avec pour enjeu décrocher le dernier billet pour les playoffs et affronter le Thunder au premier tour.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Woodrow.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Il y a 10 ans, des centaines d'écoliers ont été enlevés dans le nord du Nigeria par le groupe terroriste islamiste Boko Haram. Nombre d'entre elles se sont échappées ou ont été libérées à la suite de négociations. Mais le sort de 82 filles est suspendu à l'espoir de faire revivre un groupe de défense des droits autrefois très actif. Le groupe Bring Back Our Girls, ramener nos filles en français, a fait les gros titres après l'enlèvement de 2014. Au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis le raid, les enlèvements de masse sont devenus fréquents et les militants se sont lassés. D'Abuja, le reportage de Timothy Obiezu, le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Ce parc public était autrefois un symbole d'espoir et de résilience, mais il garde aujourd'hui le souvenir d'une lutte pour sauver 82 écolières, toujours en captivité sur les 276 enlevées par Boko Haram le 14 avril 2014 au lycée de Chibok. L'une d'entre elles est la nièce d'Nkeki Muta.
Every day.
Chaque jour, le matin et l'après-midi, nous souffrons de l'absence de notre nièce. Nous avons entendu dire que certaines d'entre elles étaient mortes et c'est ce que nous demandons. Si le gouvernement a la gentillesse de nous dire ou de divulguer les noms de celles qui sont mortes, nous pourrons oublier tout cela.
Quelques jours après les enlèvements, des militants se sont regroupés et ont lancé le mouvement Bring Back Our Girls ou BBOG, ramener nos filles en français, exigeant leur sauvetage. À l'époque, le groupe se réunissait ici quotidiennement et sa campagne a suscité l'indignation du monde entier. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alain Manessé est le porte-parole de la communauté de Chibok et membre du mouvement BBOG.
Il y a une certaine lassitude dans la lutte. Lorsque l'initiative Bring Back Our Girls a commencé à prendre l'ampleur au niveau mondial, de nombreuses réponses ont été reçues, même de la part de gouvernements étrangers prêts à soutenir le Nigeria.
Jusqu'à présent, 194 filles sont revenues, soit en s'échappant, soit en étant libérées suite à des négociations avec le gouvernement. Mais la menace d'enlèvement massif demeure. Amnesty International indique que le Nigeria a enregistré 17 cas dans lesquels au moins 1700 enfants ont été enlevés à l'école après Chibok. Les attaques récentes ont été perpétrées par des bandes armées connues sous le nom de bandits. Ces gangs exigent souvent d'énormes rançons pour libérer leurs captifs. Les autorités nigérianes affirment qu'elles n'ont pas oublié les personnes en captivité. Le général Christopher Moussa est le chef d'état-major de l'armée du Nigeria.
Si nous avions utilisé les méthodes de combat conventionnelles, nous serions entrés dans toutes les communautés et aurions tout rasé pour recommencer à zéro. Mais nous ne pouvons pas faire cela parce que nous savons que des acteurs non étatiques retiennent d'autres personnes contre leur gré. Dans certains cas, nous sommes partis à l'attaque. Mais parce qu'il y avait des civils, nous avons annulé l'opération.
Les familles et les militants du mouvement BBOG ne sont pas d'accord. Elles affirment que les autorités n'ont pas fait preuve de volonté politique nécessaire pour résoudre le problème. Dimanche, ils se sont souvenus des filles à l'occasion du 10e anniversaire de leur enlèvement. Florence Ozor est leur chef de file.
Malheureusement, l'enlèvement des filles de Chibok a été le début d'innombrables enlèvements qui ont conduit à une industrie florissante de l'enlèvement dans notre pays depuis que le gouvernement a refusé de traduire les ravisseurs de nos filles de Chibok en justice.
Tant que les filles n'auront pas été libérées, de nombreuses personnes comme Muta attendront de pouvoir tourner la page.
Au Bénin, la question du droit à l'avortement revient à nouveau au centre des débats après son adoption par le Parlement en 2021. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'a eu lieu la rencontre nationale sur la redevabilité en matière de droit à l'avortement sécurisé. C'est une initiative de la Coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Pendant 3 jours, la rencontre a réuni à Cotonou des acteurs de la société civile, des experts et des personnalités publiques, tous soucieux d'apporter des réponses claires aux préoccupations des jeunes sur la question de l'avortement sécurisé au Bénin. Kifayat Tokoshabi est la secrétaire exécutive du COJAS Bénin. Elle revient ici sur les raisons qui ont poussé à l'organisation de cette rencontre.
Cette rencontre nationale sur la redevabilité est organisée dans le but de renforcer l'implication des acteurs de défense des droits en santé sexuelle et reproductive, mais surtout de l'accès des femmes dans le besoin aux services d'avortement sécurisé, afin de mettre en place tous ensemble un mécanisme novateur de redevabilité pour assurer une meilleure compréhension de ce que c'est que la redevabilité, mais également de nos responsabilités personnelles et morales sur la question de la redevabilité en termes de services d'avortement sécurisé au Bénin.
Au cours de cette rencontre, les intervenants ont souligné l'importance de garantir les droits des individus tout en assurant un accès sûr et équitable aux services d'avortement. Aïchatou Salifou est participante.
Je dirais la rencontre nationale sur la redevabilité est une très grande opportunité pour nous. On a l'un des grands défis qui est beaucoup plus l'accès aux services d'avortement sécurisé. Le Bénin fait partie des premiers pays, je vais dire, en Afrique francophone qui a fait un très grand progrès en termes de santé sexuelle. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui en est de l'arsenal social de l'accessibilité aux services d'avortement sécurisé?
Connaître à Kwedingje est juriste. Il plaide pour l'amélioration de l'outil d'évaluation des politiques publiques en matière d'avortement sécurisé.
Il est nécessaire pour tous les droits fondamentaux de prendre en compte l'approche basée sur les droits humains qui suppose la ventilation de données, qui suppose la prise en compte globale des droits humains dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
Les participants ont travaillé sur l'identification des indicateurs clés et ont formulé des questions pertinentes pour évaluer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et d'autres aspects des services d'avortement sécurisés au Bénin. Mais pour Damien Seglounou, responsable plaidoyer à Médecins du Monde, il faut peser le pour et le contre.
C'est l'occasion pour nous pour voir ensemble comment clarifier le concept afin d'harmoniser la compréhension au niveau des différents acteurs, surtout les acteurs communautaires, parce qu'il est clair qu'il se pose un problème de mal compréhension sur la loi qui donne accès à l'avortement. Il faut clarifier qu'il s'agit d'une loi sur la santé sexuelle et reproductive, y compris l'offre de services à l'avortement sécurisé.
La rencontre a été fortement soutenue par la société civile pour laquelle le droit à l'avortement reste une question essentielle. Au ministère de la Justice, les craintes sont les mêmes. Nyanki Dokoto est un cadre du ministère. Elle replace dans son contexte le vote de la loi sur l'avortement au Bénin.
La raison fondamentale que régit les tests de notre pays sont notamment lorsque la personne est en danger, c'est-à-dire la mère ou le fœtus est en danger, lorsque pour des raisons donc assez sensibles au regard de la santé.
De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le premier procès pénal de Donald Trump monopolise l'attention à New York, l'ancien président et actuel candidat pressenti du Parti républicain à l'élection du 5 novembre continue d'exploiter l'événement au plan politique. Il ne cesse d'en parler durant ses meetings de campagne. L'homme qu'il cherche à détrôner, le président Joe Biden, part lui en Pennsylvanie pour courtiser l'électorat de cet État-clé. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
L'État de Pennsylvanie a été la dernière étape de la campagne électorale de Donald Trump avant son procès qui s'est ouvert lundi 15 avril à New York. Il doit répondre de 34 chefs d'accusation. Il est accusé d'avoir falsifié des documents commerciaux, prétendument pour cacher une relation sexuelle avec la star du porno Stormy Daniels en 2006. Samedi, à Schnecksville, le candidat républicain pressenti a une fois de plus dénoncé l'affaire comme une chasse aux sorcières.
Ce sont tous des procès Biden, vous savez, n'est-ce pas? Je suis fier de le faire pour vous. Amusez-vous bien en regardant.
Comme il s'agit du premier procès pénal de l'ancien président, l'affaire sera examinée de près. L'analyste politique Calvin Dark.
Je pense que jusqu'à présent, les juges pour la plupart et les procureurs ont fait du très bon travail en essayant de s'assurer que le traitement réservé à Trump soit aussi proche que possible de ce que l'Américain moyen atteindrait s'il se trouvait dans une situation similaire.
Le gouverneur du New Hampshire, le républicain Chris Sununu, a déclaré dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC qu'il ne s'attendait pas à ce que l'affaire des pots de vin ait des conséquences politiques majeures pour Trump.
Ils vont probablement reprendre la campagne et presque ressasser ce qui se passe. Ils vont essayer de jouer à la victime et cela a fonctionné pour lui.
Dans le camp démocrate, l'attention du président Joe Biden a été pleinement mobilisée par des questions comme la réponse à l'attaque de samedi par l'Iran contre Israël. Mais on s'attend aussi à ce qu'il batte campagne dans les jours qui viennent avec une visite de 3 jours en Pennsylvanie. Le principal sujet de discussion, l'économie. C'est le point de vue de Carlene Bowman de l'American Enterprise Institute, jointe via Skype.
Il va parler du fait qu'il y a des signes d'amélioration de l'économie, bien que le rapport sur l'inflation de la semaine dernière n'ait pas été bon pour l'administration.
La protection des droits reproductifs est un autre sujet que la campagne de Biden a mis en avant et sur lequel elle pourrait continuer à se concentrer cette semaine, surtout après que Trump a déclaré la semaine dernière que la décision sur l'avortement devrait être laissée aux États.
Les États-Unis et Israël estiment avoir infligé une défaite spectaculaire à l'Iran au cours de l'attaque aérienne contre l'État hébreu samedi. Mais une question plus importante se place à l'Iran, au lendemain avec Rosine Monezero.
La Maison-Blanche a déclaré dimanche que la première attaque directe de l'Iran contre Israël était un échec lamentable, avec 99% des missiles interceptés avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le président américain Joe Biden a écourté un voyage de fin de semaine dans son état natal du Delaware pour retourner à la Maison-Blanche samedi, où il a passé des heures au téléphone avec des dirigeants du monde entier en réunion. Des responsables de la Maison-Blanche ont également déclaré aux journalistes que Washington ne soutenait pas une contre-attaque israélienne. L'administration Biden, par la voix de John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, a insisté sur un point.
Le président a été clair. Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran.
Au lendemain de l'attaque, les dirigeants israéliens ont cherché à se concentrer sur ce que cette attaque signifiait pour la coalition contre l'Iran, qui soutient les groupes militants qui ont frappé Israël le 7 octobre et qui ont fait basculer la région dans la violence. Yoav Gallant est le ministre israélien de la Défense.
Nous avons l'occasion d'établir une alliance stratégique contre cette menace sérieuse de l'Iran qui menace de placer des explosifs nucléaires sur la tête de ses missiles, ce qui pourrait constituer une menace très sérieuse. Les États-Unis, Israël et leurs alliés se tiennent côte à côte pour se défendre contre cette menace.
Téhéran a promis de riposter à l'attaque israélienne présumée contre le consulat iranien à Damas au début du mois. Et l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a affirmé dimanche que l'attaque du consulat signifiait la réponse de l'Iran. Il a souligné que l'Iran ne cherchait pas le conflit avec les États-Unis, mais a terminé son discours par une mise en garde. Amir Saïd Iravani est l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies.
Toutefois, si les États-Unis lancent des opérations militaires contre l'Iran, ses citoyens ou sa sécurité et ses intérêts, l'Iran utilisera son droit inhérent à répondre de manière proportionnée. Je vous remercie.
Mais la grande question qui se pose au Premier ministre Benjamin Netanyahou est de savoir comment Israël va réagir. Écoutons encore Goren.
Je pense qu'Israël, dans la manière dont il évalue sa réponse à partir de maintenant, voit aussi quelques opportunités d'inverser la tendance négative de son image en Occident, étant donné ce qui s'est passé hier et la retenue qu'il projette maintenant en réponse à cela.
Alors que les dirigeants du monde réfléchissent à la suite des événements pour les familles palestiniennes prises au milieu de ce conflit brutal qui a ravagé Gaza, la question ne pourrait être plus urgente.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.